Staline a été le père du peuple russe, a été le défenseur de l'égalité, de la fraternité. Et puis, lui, c'est des millions de morts. Hein. Mao aussi. Alors, où est le bien, où est le mal? Quel est le pire de la secte socialiste ou de la secte faustienne? On n'en sait rien. Ça pose un sacré problème. Mais ce problème, il en cache un autre, si vous voulez, qui n'est plus moral, mais qui est presque philosophique. Est-ce que, comment puis-je être ce que je suis? Comment puis-je être intègre en moi-même? Comment ai-je pu être honnête avec moi-même? Comment puis-je m'accomplir comme l'arbre? Comment puis-je donner tous mes fruits et en même temps servir la société? Si je sais une société différente qui ne vivra pas pour moi mais pour elle, et qui pourra me mettre en prison, qui pourra m'empêcher d'écrire, de créer, de produire, de faire de la peinture au nom de la vertu, comment puis-je être intègre et m'intégrer? Comment jouer à la fois de l'intégration et de l'intégrité? Depuis 2 siècles, les hommes se battent là-dessus. Ils s'entretuent pour ça. Ils s'entretuent pour ça. Et en fin de compte, je crois que la liberté que nous attendons, la liberté ne sera réalisée que quand on aura trouvé le moyen. Comment être dans un groupe, dans une assemblée, dans une société, sans se trahir soi-même? Et comment se trahir sans trahir les autres? Alors là, ça va me donner donc la matière de cette deuxième causerie, que je voulais intituler d'ailleurs l'arbre et la forêt. Ce n'est plus le problème que nous posions tout à l'heure du fil et de la meuse, c'est le problème de l'arbre et de la forêt, mais c'est le même, sauf qu'il est imagé. Nous avons affaire à une image, là, l'arbre, la forêt, on voit ce que c'est, on sait ce que c'est. Or, c'est un sacré problème, c'est tout à fait un problème, c'est pas si simple qu'on croit. On pourra dire que l'arbre est un, il est lui-même, comme vous dites tout à l'heure, il est un et la forêt c'est plusieurs. C'est une façon de voir les choses simples, tout le monde en sera d'accord. Le un et le plusieurs, l'unité, la pluralité. Est-ce que c'est ça qui distingue l'arbre de la forêt? Oui, sans doute, mais pas seulement. L'arbre est continu. C'est un quoi? C'est un fil. Il est continu, c'est un objet en lui-même, de la racine à son fait, à son sommet. Il est continu, il n'y a pas de brisure, il n'y a pas des branches d'un côté, des feuilles de l'autre. La forêt, elle est discontinue. Ben oui, il y a des arbres ici, il y en a là, il y a un sentier entre les deux, il y a une clairière, elle est faite de rupture, de sauts, de discontinuité. Bon. Alors, est-ce que ça suffit à caractériser l'arbre et la forêt que de dire que l'arbre est continu et que la forêt est discontinue? Non, ça ne suffit pas non plus. Ça ne suffit pas non plus parce qu'en réalité, l'arbre est contenu dans la forêt. Et la forêt, c'est le contenant. Ou bien l'arbre est en dehors de la forêt. Enfin, son sort, sa mission, son destin se révèle dans la forêt. L'un est contenu, l'autre est contenu. Or, selon qu'on considère l'une de ces dialectiques-là, pour bien fixer des idées, je vous le marque, enfin, mais ça vous fera davantage. Vous avez le moins, le plus. Vous avez le moins, le plus qui va. C'est ça le problème de la pluralité. Je vous dis, il y a celui qui est moins, celui qui est plus. Il y a celui qui est continu et ce qui est discontinu. Vous voyez comment ça s'écrit? Ou bien vous avez celui qui est contenu et puis celui qui est contenant. Alors on se dit, ça c'est clair, on a trois formulations, d'ailleurs algébriques, qui rendent compte de ce problème. En réalité, ça ne nous suffit pas. Aucun des trois ne nous suffit pour définir l'arbre et la forêt. C'est très étrange, mais c'est comme ça. J'ai dit que l'arbre était un. L'arbre est fait de quantités de petites forêts. Ses branches, chaque branche est un arbre. Dans l'arbre, chaque feuille, l'ensemble des feuilles est une forêt pour l'arbre. Si vous le considérez comme un contenant, donc il va être lui-même une forêt. Si vous le regardez d'assez près, disons, si vous l'observez à la loupe, au microscope, eh bien vous allez voir qu'il est fait d'atomes, qu'il est fait de particules, et que ces particules sont noyées, comme nos particules qui nous composent aussi, qui composent la table, noyées dans un immense vide, hein, comme le dit la science actuelle. Quelques atomes dans le vide, cette table, elle est aussi peu réel que, ou aussi peu solide que l'infini, où quelques étoiles, quelques mondes, quelques soleils se baladent dans un vide infini. Donc l'arbre est discontinu, il est fait de discontinuité, et on ne s'en aperçoit pas parce qu'on est un peu esclave de notre vision, mais c'est vrai que la branche, la feuille tombe, c'est vrai que le fruit tombe, c'est vrai que la branche peut se casser et qu'elle peut donner, pas tous les arbres certains, le germe d'un autre arbre, etc. Et puis à l'inverse, la forêt, elle est continue tout de même. La forêt, quand elle est achevée, qu'elle est dans sa beauté, dans sa plénitude, elle est aussi continue, aussi unique, aussi qu'un arbre. Elle est un arbre plus grand qui englobe les arbres, mais elle a cru, la forêt a cru comme l'arbre droit. La forêt a cru pour atteindre à cette beauté, atteindre à cette plénitude, pour elle-même un arbre. Alors, la forêt peut être une et l'arbre peut être plusieurs. La forêt peut être continue, peut avoir cette harmonie, cette homogénéité, puis l'arbre peut être discontinué. Et on a vu que l'arbre pouvait être contenu dans la forêt, mais qu'il pouvait être aussi en dehors de la forêt, sur le sommet de sa colline. Donc ça ne suffit pas pour les caractériser. Alors pourquoi est-ce que nous battons comme l'arbre et la forêt? Pourquoi est-ce que ces sectes faustiennes d'un côté, ces sectes socialistes de l'autre, si l'un peut être comme l'autre? Si la secte socialiste peut devenir une autre secte faustienne, on l'a bien vu avec l'exemple de Staline, mais l'autre est vrai aussi. Vous avez des faustiens qui sont des êtres charmants, qui sont des élégiens, qui sont des êtres finalement doux et qui ne font pas la personne. Alors il y a peut-être quand même possibilité d'associer ces deux tendances que je disais tout à l'heure. Ben, c'est assez difficile, ça demande effectivement une approche beaucoup plus approfondie du problème. Comment pourrais-je expliquer ça? D'abord, il y a le déplacement. Il y a le déplacement. Et c'est important parce qu'en fait, devant une religion, devant une société, on est un peu comme le passant sur une route qui va, il marche et puis il découvre des choses nouvelles, ou bien les mêmes. Revient sur ses pas, etc. Il y a d'abord un problème de déplacement. Et dès qu'on parle de lecture, là nous parlons de lecture de l'arbre, de lecture de la forêt. Quand nous parlons de lecture, nous parlons en fait de déplacement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez, oui, vous l'avez sans doute observé, si vous êtes au loin, vous allez voir une forêt. Dans votre œil, dans le cercle de l'œil, si vous voulez, de la vision, de l'objectif, vous allez avoir une forêt. Comprise dans ce cercle. Et puis vous approchez, et puis vous ne voyez plus la forêt, vous voyez quelques arbres. Et puis, le dessus, ben, vous voyez l'arbre. Vous voyez le tronc, vous ne voyez plus la forêt, l'arbre vous cache la forêt. C'est-à-dire que l'approche, des peuples, il ne reste plus qu'un arbre, et que l'éloignement peuple jusqu'à la forêt. Non. Mais si on n'est pas, si on ne joue pas de l'espace, si on joue du temps, ça va être tout à fait différent, ça va être l'opposé. Ça va être l'opposé, c'est très curieux. Ce que vous avez hier vu, vécu aujourd'hui, ben vous vivez dans une multitude de choses, de petits détails. Vous êtes dans la forêt, vous êtes dans la forêt. Et puis vous pensez à hier, Eh bien, d'hier, il va vous rester
quelques événements.
Ah, la voisine est venue me voir, j'ai fait des ouvriers pour mon fils et mon mari m'a donné un baiser qui m'a fait plaisir, etc. Il y aura quelques faits. Il y aura 3-4 faits qui rentreront dans la mémoire d'hier, qui seront pour vous la journée d'hier. Et puis si vous pensez à l'année précédente, à l'année dernière, mais l'année entière, de 365 jours, vous aurez aussi quelques événements. Ah bon, on est allé en vacances, ah ben, j'ai vu un beau coucher de soleil. Hein. Mais en 360 jours, pas en une journée, pas en une heure, pas aujourd'hui, sur un an. Et si vous vous souvenez de votre enfance, 30 ou 40 ans avant, vous n'aurez plus qu'un ou deux événements, vous aurez un grand malheur, un grand mensonge qui vous est arrivé, un grand bonheur qu'on vous a fait, un beau cadeau à la Noël, une réunion de famille. Vous aurez quelques événements, mais alors cette fois-là sur 10 ans. C'est-à-dire que l'éloignement, là, dépeuple. Et que l'approche dans le temps, peuple, c'est exactement le contraire de l'espace. Alors lorsqu'on commence à considérer la amplitude, la complexité du problème, on se dit pourquoi, de plus en plus, pourquoi est-ce que je ne peux pas être à la fois, moi, intègre et intégré à une société, à un ensemble. Je vais vous demander de me croire sur parole, parce que vous n'avez sans doute pas, vous êtes pas au courant de toute l'évolution des sciences et des mathématiques, surtout modernes. D'ailleurs, j'y reviendrai demain si ça intéresse certains d'entre vous. Mais enfin, disons qu'aujourd'hui, il y a deux grandes façons de voir les choses, de juger, du travail qu'on peut faire sur un projet, qu'on peut faire sur une étude, que ce soit une étude scolaire ou une étude dans une grande industrie, ou une étude même au niveau de l'État. Il y a deux grandes façons. Il y a ce qu'on appelle la méthode, enfin ce qu'on appelle ce que la mathématique des ensembles appelle le système, un système qui contient toujours plusieurs ensembles. Hein. Ça contient au moins deux ensembles, généralement 0 et 1. Mais ça peut être, c'est ce jeu des deux ensembles qui a permis toute l'informatique moderne. Eh bien, lorsque les mathématiciens étudient ces ensembles, ils s'aperçoivent qu'il n'y a que deux ordres de relations à l'intérieur du cercle. Si on peut considérer l'ensemble comme un cercle, hein, c'est pas pour dessiner. L'ensemble est un cercle, puis il y a des choses qui sont à l'intérieur, qui sont dans cet ensemble-là et pas dans un autre, si vous voulez, qui fait qu'elles sont là. Pas ailleurs. Eh bien, il y a deux sortes de relations entre les objets. Ou bien des relations d'équivalence. Des relations d'équivalence, ça veut dire que vous aurez un ensemble de choses rouges, par exemple. Ce sera l'ensemble rouge. Vous pourrez avoir une table rouge, vous pourrez avoir une chaise rouge, vous pourrez avoir un chapeau rouge. Ça aura sa place puisque c'est rouge. Ce sera dans l'ensemble rouge. Ça aura l'équivalence du rouge. Au contraire, l'équivalence peut être une table, les tables, un ensemble de tables, c'est un ensemble. Une table peut être rouge, l'autre verte, l'autre jaune, ça sera quand même un ensemble de tables. Il y aura une équivalence qui est la table. Et s'il n'y a pas de relation d'équivalence entre les objets, il y aura une relation d'ordre. Enfin, elles seront toutes dans des cercles concentriques à l'intérieur du cercle, ou elles seront dans des triangles, elles seront dans des ellipses. Et cet ordre fait qu'on pourra les introduire dans cet ensemble-là et pas dans un autre ensemble. Mais ça n'est qu'une façon de voir les choses. Ce n'est qu'une façon de voir les choses, qui est une façon finalement rationnelle, mathématique, scientifique aujourd'hui de voir les choses. Tout peut être réuni dans un ensemble. Et il y aura d'autres ensembles à côté qui seront différents. Il y aura l'ensemble du vert, l'ensemble du rouge, il y aura l'ensemble des tables, il y aura l'ensemble des chaises. n'y a pas d'autre conception pour cet esprit-là. Tout système contient des enfants.